nouveau massacre ce week-end à Beni. 7 personnes ont été tuées dans cette zone. Selon le gouverneur du Nord Kivu, près de 300 personnes ont été massacrées depuis le mois d'octobre de l'année passée. Face à ce carnage, Julien Paluku appelle le gouvernement Matata 2 à se concentrer désormais aussi sur les aspects sécuritaires dans l'est de la RDC comme il le fait pour le secteur de l'économie. Quelle analyse faire de cet appel du gouverneur du Nord Kivu? Je reçois pour en parler l'honorable Grégoire Kiro. Bonsoir honorable. Vous êtes député national de l'opposition, membre du RCD-KML. Vous êtes élu de la ville de Beni. Merci d'avoir accepté notre invitation. Franklin Tchamala. Bonsoir monsieur Tchamala.
Bonjour mon frère, merci.
Vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Enfin, professeur Alphonse Maïndo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani, province orientale. Merci à vous également. À Beni au Nord Kivu, vous nous suivez sur 92 FM et partout au monde sur RadioCapi.net. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le gouverneur du Nord Kivu appelle le gouvernement Matata 2 à se concentrer désormais aussi sur les aspects sécuritaires dans l'est de la RDC comme il le fait pour le secteur de l'économie. Déclaration de Julien Paluku après un nouveau massacre ce week-end à Beni. Dans un communiqué de presse publié ce dimanche, Julien Paluku parle de près de 300 personnes massacrées depuis le mois d'octobre de l'année passée. On l'écoute au téléphone de Jacques-Yves Molima.
Oui, moi je crois que la situation est plus que grave parce que depuis le mois d'octobre 2014, nous sommes à plus de 300 personnes qui sont tuées, particulièrement dans le seul territoire de Beni. Sur les 145 territoires que compte la République, si on peut enregistrer en 6 mois 300 morts, je crois que cela doit interpeller tout le monde. Voilà pourquoi j'estime que dans ces pays où on a réussi à stabiliser les taux de croissance, les restes des paramètres macroéconomiques, il est maintenant temps qu'on puisse maintenant se réunir autour des grands responsables pour parler maintenant essentiellement des questions sécuritaires. Parce qu'aujourd'hui, le langage que la population voudrait bien comprendre, c'est celui de voir arrêter ce carnage rapidement et non plus celui de dire, bon, nous avons autant de réserves à banque qui équivalent à autant de semaines. Ce n'est pas un langage que les grands-mères et les enfants qui naissent sur le terrain pourront comprendre. Voilà pourquoi moi j'estime qu'aujourd'hui, il faut désormais changer la réunion de chaque lundi en réunion de stratégie pour des questions sécuritaires, pour qu'on définisse et qu'on mobilise les moyens humains, matériels, intellectuels, financiers, de manière à mettre un terme à ce carnage qui semble perdurer de la province du Nord Kivu.
Réponse du porte-parole du gouvernement, Lambert Mende affirme que le gouvernement organise régulièrement des réunions sécuritaires pour l'Est et on ne doit pas exposer les stratégies sécuritaires sur la place publique. Pour le ministre, il y aurait une campagne menée contre le Premier ministre. Lambert Mende au micro de Jeff Ngoy.
En ce qui concerne ce qui se passe au Nord Kivu, les réunions de sécurité n'ont jamais cessé de se tenir, sauf que s'agissant des problèmes de sécurité, nous ne donnons aucune publicité à ces réunions. Et ce n'est pas parce que nous ne donnons pas de la publicité que nous ne nous soucions pas de cela. Au contraire, les questions de sécurité sont des problèmes qui se traitent discrètement pour des raisons d'efficacité. Et l'armée qui est en train de se battre, c'est une armée qui est envoyée par les institutions nationales, le chef de l'État, le gouvernement. Il n'est pas question d'individualiser les choses et donc il faut arrêter de chercher de diviser les responsabilités. Nous prenons les choses bien en main. Nous avons affaire à des terroristes. Il ne faut pas que des responsables de l'État commencent à se chamailler pour essayer de faire plaisir à des terroristes.
Franklin Tchamala, vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Monsieur Tchamala, pour vous, après ce nouveau massacre à Beni ce week-end, comment vous analysez cet appel du gouverneur du Nord Kivu?
Non, je salue, je vous remercie pour l'invitation et le gouverneur du Nord Kivu, c'est un homme dont j'apprécie beaucoup l'activisme et même la lucidité, mais pour cette fois, je suis un peu dérouté. Je suis dérouté, et ce d'autant plus que tout récemment, c'est de lui que l'information de la mise en route d'une nouvelle rébellion est partie, et maintenant, il estime que les questions sécuritaires ne sont pas suffisamment prises en charge par le gouvernement de la République, alors qu'il sait bien qu'il existe dans ces pays un Conseil supérieur de la défense qui se réunit régulièrement sous l'autorité chef de l'État pour délibérer sur ces questions qui sont stratégiques. Il existe dans ce pays un Conseil national de sécurité, hein, et qui s'est réuni pour régulièrement d'ailleurs, sans beaucoup de publicité, comme l'a dit le ministre Mende, pour délibérer sur ces questions qui sont d'ordre stratégique. Il existe, s'agissant du Nord Kivu, d'un état-major opérationnel, vous savez, qui a été amputé du général le regretté Mamadou Ndala, qui est mort dans les conditions que vous connaissez, après sa victoire, la victoire brillante de nos forces armées sur les M23. Vous savez dans quelles conditions le général Bahouma, qui était le patron de la région militaire au Nord Kivu, est décédé également. Et donc vous connaissez également, et la population est témoin, du volume, ou de l'ampleur, ou de l'envergure, de la logistique qui est mise en route pour gérer et stabiliser la situation au Kivu, parce qu'autrement, la neutralisation des forces négatives au nom desquelles se trouve l'FDLR, comment est-elle conduite par nos forces armées, avec quel argent, qui vient d'où, avec quelle politique, avec quelle tactique, décidée à quel niveau, vous comprenez, et les adeptes Nalou et tout ça, leur neutralisation est conduite par nos forces armées à partir de Kinshasa, avec des ressources dont on connaît la provenance, etc. Mais le gouverneur sait également que l'équation de la province de Nord Kivu, c'est une équation qui comporte beaucoup de complicités et internes, y compris des complicités des hauts responsables, des enfants de la région qui ont fait de l'insécurité dans cette province un fonds de commerce. Alors, essayons de démêler dans cette affaire ce qui relève du gouvernement central et ce qui relève de la citoyenneté responsable, ça veut dire de notre responsabilité, nous en tant que citoyens, nous en tant qu'enfants du Kivu, parce que moi je suis un enfant du Kivu. C'est là que j'ai étudié, c'est là que je suis sous mes parents en ce moment. Je me sens concerné au premier chef par cette question d'insécurité.
Alors, Franklin Tshiamala, voulez-vous dire que par cette déclaration, le gouverneur du Nord Kivu semble un peu dépassé par les événements?
Il n'est pas dépassé, je pense que c'est une déclaration politique qui tend à charger les chefs du gouvernement inutilement dans une question où il a montré effectivement jusqu'où il avait compris, suivant les instructions du chef de l'État, que la sécurité des personnes et des biens passait avant tout, et qu'il n'était pas possible dans ce pays d'ériger une économie prospère sans préalablement sécuriser les personnes et leurs biens. C'est clair. Et il y a travaillé, parce que autrement, les M23 sont partis comment? Qui connaissait les jours ou l'heure l'attaque des FARDC partirait? Qui connaissait d'où ça partirait? Qui connaissait avec quelle logistique cela serait engagé? Qui était au courant? Ça, c'est du domaine stratégique. Je suis étonné simplement que, au niveau du gouverneur, dont je connais la lucidité et le niveau d'intelligence, les choses soient perçues avec autant de désintéressement.
Alors, quand vous dites que c'est une déclaration politique, vous voulez en d'autres termes dire, comme le ministre Mende, qu'il y aurait une campagne contre le Premier ministre?
Une campagne dont on connaît les tenants et les aboutissants. Le Premier ministre Matata gêne. Il gêne des personnes qui ont été pendant longtemps, c'est vrai, aux mamelles de la République et qui ne se retrouvent plus. C'est tout. Des gens qui ont fait de l'État congolais leurs clients. Leur client sans lui avoir fourni même une aiguille. Ils gênent, c'est clair, mais nous n'accepterons pas du tout que les gens, comme ça, s'en prennent au Premier ministre sans aucune raison.
Alors, le gouverneur Julien Paluku l'a dit dans son communiqué, depuis le mois d'octobre de l'année passée, ça fait plus de 300 morts que l'on enregistre dans cette partie du pays. Est-ce qu'il n'aurait pas raison, Franklin Tshiamala, le massacre de ce week-end n'est-il pas un massacre de trop?
Mais c'est un massacre de trop, mais lorsque vous regardez de plus près le mode opératoire de ces groupes armés qui opèrent chez nous dans les Kivu, dans les Nord Kivu, et principalement dans les Grands Nord, lorsque vous regardez de plus près ces modes opératoires-là, et que vous essayez d'identifier, comme ça, qui en sont acteurs, le gouverneur Paluku connaît qui est acteur dans cette affaire-là. Le gouverneur Paluku sait dans la poche de qui vont les ressources qui sont générées par l'exploitation illicite des mines de ces pays par les enfants de la région, qui par ailleurs se sécurisent par les groupes armés qui sont autour de leur puits, de l'or et du coltan. Il connaît parfaitement. Il connaît qui est enrichi par l'argent de cette guerre. Il connaît parfaitement. Et donc, plutôt que de commencer à chercher comme ça les pouces sur la tête des gens qui sont sains, je pense qu'il doit comprendre que les forces armées, les forces de sécurité, à elles seules, ne peuvent rien sans notre concours, nous citoyens du Kivu, nous enfants du Kivu. Alors, un concours qui s'inscrit dans une dynamique citoyenne responsable. La collectivité a besoin de nous. Nous devons savoir démêler ce qui relève de nos intérêts particuliers, de nos intérêts partisans et de l'intérêt de la collectivité.
Alors avant que je ne donne la parole à l'honorable Kiro Franklin Tchamala, qu'est-ce que vous répondez à tous ces compatriotes qui affirment être loin du gouvernement central à Kinshasa, étant donné que tout ce qui se passe là-bas, ils ont l'impression qu'ils sont délaissés, qu'ils sont abandonnés?
Non. Les ressources publiques, les ressources de l'État congolais sont celles qui fournissent munitions et armes et qui payent les hommes des troupes qui sont déployés là-bas. Mais simplement, nous devons dire à notre peuple que ceux qui font les carnages là-bas, ce sont notamment les enfants du Kivu. Ce sont les enfants du Grand Nord qui ont mué cette guerre-là en un fonds de commerce et qui vivent de ça. Commençons par donner du cynisme.
Merci.
À nos enfants en leur disant que la patrie vient avant tout. Mais arrêtons de faire comprendre aux gens que notre malheur vient d'ailleurs. Notre malheur vient de notre perception de la nation. Il y en a de plus en plus qui sont convaincus que leurs intérêts privés, leurs intérêts en tant qu'individus viennent avant l'intérêt de la collectivité. Et ça, c'est dangereux.
Merci Franklin Tchamala. Honorable Grégoire Kiro, vous êtes député national de l'opposition, membre du RCD-KML. Vous êtes élu de la ville de Beni au Nord Kivu. Comment vous analysez ce nouveau massacre qui a eu lieu ce week-end?
Merci. Je dois dire que je suis déjà abasourdi par les empoignades auxquelles nous assistons de la part de hauts cadres de la majorité présidentielle. Ils n'ont pas l'habitude de se tirer dessus de cette manière-là. Mais je crois que, quelque part, trop c'est trop. La population en a marre de se faire massacrer ainsi. Ça fait des mois que ça dure, ça fait même des années que ça dure, parce que avant la recrudescence des massacres fin 2014, il faut dire qu'avant cela, à partir des années 2011-2012, il y avait déjà l'activisme des ZIF qui était signalé et qui se caractérisait par des enlèvements. On a parlé de 700 à 800 enlèvements, on a parlé de différentes exactions, sauf que c'est seulement à partir de l'année passée que le mode opératoire a changé, parce qu'ils se sont mis maintenant à massacrer, à égorger et à éventrer. Donc c'est un massacre de trop, effectivement, et je crois que le gouverneur Julien Paluku, je ne suis pas de son bord politique, je commente juste ce qu'il a dit, et je constate qu'il est en plein désarroi lui aussi, parce que c'est à lui que la population demande des comptes. C'est à lui que la population demande des comptes. C'est lui qui représente le gouvernement central au Nord Kivu, et c'est lui qui est chargé d'apporter la bonne nouvelle du gouvernement à la population de Beni, à la population meurtrie, à la population qui souffre. Et il a du mal, des fois, à dire, mais comment? Parce qu'on lui dit, mais écoutez, vous dites que le gouvernement s'attelle à ramener la sécurité, mais on ne voit rien venir. Donc, quelque part, il en a ras-le-bol, lui aussi. Il dit, non, trop, c'est trop. Il demande au gouvernement central de faire son travail. Et je suis surpris que, pour peu que quelqu'un demande à quelqu'un de faire son travail, disons au Premier ministre en l'occurrence, cela provoque un tollé. C'est pas correct. Il n'est un secret pour personne que le Premier ministre, Mandata Taponio, il ne s'est jamais exprimé clairement à propos des massacres de Beni. Il n'en parle jamais. Si au sein du gouvernement il y a quelqu'un qui en parle, c'est bien le ministre Mende. Il est le seul à en parler.
Oui, mais en tant que porte-parole du gouvernement.
Dans d'autres pays, il y a aussi des porte-paroles du gouvernement. Ça n'empêche pas le Premier ministre, ça n'empêche pas le chef de l'État de s'exprimer aussi à propos de graves événements qui se déroulent. Alors, mon collaborateur Franklin Tchamala, que je salue au passage, a parlé du Conseil national de sécurité qui existe dans l'état-major opérationnel Nord Kivu. Il a insisté sur la complicité des enfants de la région. Moi, j'aimerais revenir à cette fameuse complicité des affaires de la région. J'aimerais vraiment qu'on soit correct. Écoutez, il y a quelques semaines, il y a des ADF qui ont été arrêtés en périphérie de Beni, et ceux-ci ont affirmé obtenir le soutien logistique de certains hauts responsables des FRDC. Mais moi, je ne sais pas pourquoi on ne veut pas creuser cette piste-là et mener des enquêtes approfondies de manière à pouvoir déceler les brebis galeuses, plutôt que chaque fois se rabattre sur la population qui est accusée de complicité, alors que c'est cette population qui se fait massacrer, qui se fait égorger, c'est cette population qui souffre parce qu'elle ne sait plus aller au champ, et c'est cette population à qui on demande de collaborer avec les FRDC ainsi qu'avec les autorités et qui le fait allègrement. Parce que je vous rappelle qu'à l'occasion des massacres, je vous rappelle que 48 heures avant les massacres de Matembo, qui ont fait 7 morts d'après la société civile. 48 heures avant cela, des informations claires avaient été apportées aux FRDC ainsi qu'aux autorités, parlant d'un mouvement suspect de personnes non identifiées. Mais qu'est-ce qui a été fait pour anticiper et empêcher les massacres? Rien du tout. Donc la population, elle fait ce qu'elle peut faire. Alors l'accuser de complicité, je crois que c'est aller un peu trop vite en besogne, et c'est une manière aussi de décourager cette population qui est disposée à continuer à soutenir les FRDC.
Oui, mais Franklin Tshamala n'aurait-il pas raison quand il parlait de certains cadres? Vous n'êtes pas d'accord, honorable Kirou? Certains cadres qui soutiendraient ces mouvements qui sont connus, d'après Franklin Tshamala.
Moi, j'aimerais que l'on quitte le domaine de la supputation et que nous amène des éléments tangibles, qu'on nous amène des preuves. Tel citoyen est en complicité avec les CDF. Là, d'accord, là on pourra en parler. Mais dire les enfants du coin, écoutez, vous savez ce qui s'est passé à l'occasion des derniers, disons, des massacres de fin 2014. L'une des solutions proposées par les autorités provinciales, nationales, avait été de prendre certaines personnalités ayant pignon sur rue à Kassindi, à Beni et ainsi de suite. On les a arrêtés, on les a acheminés ici à Kinshasa. Ça fait pratiquement 5 mois qu'ils sont là. Ils n'ont accès ni à leurs avocats, ni à leur famille, ni à rien du tout. Leurs activités sont ralenties, leur famille ne sait pas qu'est-ce qu'ils deviennent. Et finalement, on se demande pourquoi ces gens avaient été arrêtés et acheminés sur Kinshasa, parce que les services n'ont jamais été capables de les amener devant leur juge naturel. Ça veut dire qu'il n'y a aucun élément contre eux, parce que s'il y en avait, ils seraient déjà jugés.
Alors pourquoi, selon vous, n'arrive-t-on pas à mettre fin à ces massacres?
Je crois que le problème qui se pose, c'est un problème militaire. C'est un problème militaire et il faut des solutions militaires. Je ne suis pas spécialiste des stratégies militaires, mais manifestement, les stratégies mises en place, elles ne marchent pas. Manifestement, les stratégies mises en place posent problème. Parce que, je vous rappelle qu'en l'espace de 6 mois, Beni a vu défiler sur son sol le chef de l'État en personne, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, ainsi que plusieurs autorités, des députés, etc. Plusieurs personnalités se sont rendues sur place. Ils ont écouté la population. Ils ont fait des analyses. Il y a des recommandations qui ont été faites par tout le monde, des recommandations qui concernaient essentiellement les FRDC.
Merci honorable, je vous redonne la parole tout à l'heure. Professeur Alphonse Maïndo, vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani en province orientale. Professeur, comment vous analysez toutes ces situations?
Bien, merci beaucoup. Je pense que la situation est suffisamment grave. Hein. Les massacres qu'on a là dans ce pays, disons, dans cette partie du pays qui finissent par révolter tout le monde. Je pense que ni le gouvernement, ni les citoyens congolais, ni l'opinion publique ou la communauté internationale, personne n'est indifférent à ce qui se passe là-bas. C'est choquant. Alors, je pense aussi que si on est face à une situation qui perdure comme ça, il y a quelques explications qu'on pourrait avancer par rapport à ça. Et parmi ces explications, il y a d'abord le fait que on est dans un pays qui était en ruine, qui est en ruine encore. On est en train d'essayer de reconstruire les pays, de racoler les morceaux. Tout est à faire dans ce pays, y compris les instruments de défense et de sécurité. Il y a des réformes qui sont en cours, qui ne sont pas encore complètement abouties, ce qui pourrait expliquer en partie, si vous voulez, la persistance de la situation qu'on a là. Alors, quand on dit que tout est à faire, on peut se demander, on commence par où, on commence par quoi? Mais il faut faire des choix stratégiques hein, qui puissent impulser un démarrage du pays. Alors, on peut aussi trouver d'autres raisons, notamment, c'est ce qui est là, j'appuie ce que le gouvernement fait en ce moment, c'est de dire, la racine du mal qu'on a dans ces conflits qui perdurent à l'Est, c'est qu'il y a une extrême pauvreté, il y a beaucoup de misère, donc il faut travailler l'économie et les sociales pour que les gens puissent mieux vivre. Alors donc, si les gens vivent mieux, les groupes armés ne vont pas avoir facilement des gens pour recruter. Alors, on peut continuer à essayer d'avancer des raisons. Alors, peut-être la question qu'on pourrait poser, notamment au gouvernement provincial du Nord Kivu, mais parce que la sûreté intérieure fait partie, selon l'article 203, de la compétence concurrence entre la province et le gouvernement central. Qu'est-ce que fait le gouvernement provincial par rapport à cette question-là? Quelle est la part du budget du gouvernement provincial qui est, si vous voulez, allouée à la sécurité de la province? Pour compléter les efforts, vous voulez faire des efforts par rapport à ce que le gouvernement central fait. Alors, on peut se poser la question par rapport à ça, pour répondre à ça. Alors, mais ceci dit, il y a aussi d'autres préoccupations. Par exemple, aujourd'hui, vous savez que notre budget national, c'est à peu près de 8 milliards. Et quelle est la défense fait partie des postes qui prennent le plus gros lot dans ces budgets-là. Mais dans les 8 milliards, c'est pas beaucoup. On a plus de 100 000 hommes qu'il faut entretenir et tout le reste. Or, ce n'est pas 8 milliards qui vont là-bas. C'est peut-être 20-30% de ça. Mais si vous prenez rien que la MONUSCO, la MONUSCO aujourd'hui compte à peu près 20 000 hommes. Et il y a un budget de plus d'un milliard, presque un milliard et demi, qui est dépensé annuellement pour ça. Donc on voit bien que si vous voulez prendre le même ratio, on devrait dépenser beaucoup plus pour assurer une sécurité minimale. Alors, mais ceci dit, je comprends aussi l'attitude de la population, et là, je voudrais revenir en disant, oui, si on veut véritablement développer la province de notre pays, on veut aller de l'avant, etc., eh bien, il faut qu'il y ait la paix et la sécurité. Ça devrait être la priorité des priorités, donc on ne devrait pas lésiner sur les moyens à mettre là-dedans. Parce que tous les efforts économiques qu'on fait, la croissance qui est inventée, qui a été retrouvée, les équilibres, peuvent tous s'effondrer en un clin d'œil, comme, si vous voulez, une glace face au soleil, si la sécurité n'est pas garantie. Les investisseurs peuvent nous fuir, etc. Professeur. Donc il faudrait faire de la défense priorité des priorités.
Professeur, alors, à votre niveau, comment vous percevez la réaction du gouvernement central par le ministre Mende, que l'on a suivi tout à l'heure, qui parle de campagne contre le Premier ministre? Franklin Tshabalala l'a dit en d'autres termes, en parlant d'une déclaration politique qui tend à charger le Premier ministre. Comment vous percevez ces réactions?
Bon, je pense que je pense qu'il faut. Je suis pas politicien. Je vois que les politiciens ils ont tendance à se jeter la balle. Mais quand j'écoute, je n'ai pas lu le communiqué du gouverneur de province du Sud Kivu, mais disons du Nord Kivu. Mais quand j'écoute les différentes réactions, je me pose une question. Je me dis mais finalement, les gouverneurs n'a fait que relayer un message qui vient du peuple profond. Voyez-vous, les pays profonds réclament qu'il y ait aussi une attention par rapport à cette question-là. C'est pas seulement pour le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Nord du Katanga, les Ituriens en province orientale. Il y a des vraies douleurs, des vrais cris de tristesse, de SOS qui sont lancés au gouvernement par rapport à ça. Alors, mais quand on dit que c'est une attaque contre le Premier ministre, je ne suis pas sûr, parce que les véritables chefs du gouvernement, finalement, ce n'est pas le Premier ministre, puisque si l'on lit la Constitution, vous, celui qui est le garant de l'intégrité du territoire, ce n'est pas le Premier ministre, selon l'article 69, voyez-vous, c'est le président de la République. Voyez-vous. Donc comment le Premier ministre peut-il prendre ça pour lui? Il s'agit ici, à mon avis, d'une interpellation. Il faut éviter à chaque fois de politiser toute question Voilà, il semble que c'est plutôt un cri des cœurs. Le gouverneur qui écoute les gens tous les jours, il reçoit des rapports régulièrement des gens, il entend des cris et il veut relayer ça au niveau central. C'est juste, à mon avis, c'est une interpellation plus qu'une attaque contre une personnalité gouvernementale centrale.
Merci, professeur Franklin Tchamala. Nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Blanchard Loam, j'appelle depuis la ville de Kinshasa. C'est un massacre de trop. Nos autorités devraient dès le début chercher à identifier ces auteurs pour établir leurs responsabilités. Si nous étions dans un état digne de son nom, Julien Paluku et tant d'autres autorités devraient plutôt démissionner au lieu de faire cet appel pays-tuil. Est-ce qu'il a fallu attendre qu'il ait plus de 300 morts de nos frères et sœurs pour se réveiller tardivement?
Franklin Tchamala.
Non, mais je crois que je suis d'accord avec mon compatriote qui vient d'intervenir, mon frère Ilunga. Mais dis-moi, ces armes qui circulent dans les Kivu proviennent d'où? Ces capitaux importants qui circulent dans les Kivu, qui traversent toutes les frontières et qui viennent affluer dans les Kivu pour acheter ici le coltan, l'al de l'or, ces capitaux s'introduisent chez nous avec les concours de qui? Vous comprenez? Et beaucoup sont de nos enfants sont là intermédiaires dans les commerces des munitions et des armes. À juste titre, regardez simplement, vous avez des opérateurs économiques bien connus qui ont sur leurs étals, dans leurs magasins à Butembo et à Beni, quelques graines d'haricots, quelques articles, en tout cas la camelote, mais qui prospèrent dans l'immobilier dans d'autres provinces, qui prospèrent dans l'immobilier à Kinshasa et partout ailleurs. Mais dites-moi, ces capitaux importants qui manipulent ici, allègrement d'ailleurs, viennent d'où? Viennent d'où? Dites-moi ça. Ça provient de quel commerce important qu'ils font?
Et qu'est-ce que vous voulez dire par tout ça, Franklin Tchamala?
Pardon?
Qu'est-ce que vous voulez dire
Je veux dire, et j'insiste et je persiste, le gouverneur Julien Paluku connaît quel rôle les acteurs économiques et politiques du Kivu jouent dans la perpétuation de l'insécurité dans cette province-là. Plutôt que de faire la diversion en s'en prenant aux autorités au niveau national, il devait, lui, les convier tous à s'impliquer dans la dynamique de l'exercice de la sécurité responsable face à leurs concitoyens qui sont désarmés. Qui sont désarmés. Parce qu'au nom de l'argent, au nom du gain facile, on tue, on pille, sans ménagement.
Alors, Franklin Tchamala, mais pourquoi, selon vous, le gouverneur Paluku connaît la situation, pourquoi le gouvernement central ne peut pas intervenir pour mettre fin à cette situation?
Rassurez-vous, le gouvernement central fait ce qu'il peut, mais ce gouvernement-là ne peut rien sans les concours des autorités locales, sans les concours des populations concernées. C'est impossible. Je vous ai dit ici que Mamadou Ndala est mort là au front, tué par des personnes que l'on connaît. Mais regardez, voyons, vous avez lu la liste des personnes qui sont amnistiées dans les rangs du M23? Lisez les noms simplement, vous allez vous en convaincre. Tous ces jeunes gens qui ont fait le carnage viennent d'où? Lisez les noms de toutes les listes des personnes amnistiées, vous allez vous rendre compte que les armes et les personnes qui s'en sont servies sont manifestement des enfants du Kivu. Mais ils ont fait le carnage ou dans les Kivu. Et on connaît. Je dis, c'est une situation bien connue. Le gouvernement central fait ce qu'il peut, mais ce gouvernement-là est désarmé face aux gens qui ne veulent pas coopérer avec les services centraux.
Alors, l'honorable Kiro a dit pour lui que c'était un problème militaire et le professeur Maindo a soulevé la question du budget national, la part allouée à la sécurité est faible, ne serait-ce pas des arguments qui tiendraient aussi? Franklin Tchamala?
Je vous écoute.
Oui, je disais que l'honorable Kiro a dit que c'était un problème plutôt militaire. Il a rejeté l'argument selon lequel il y aurait des complicités. Le professeur Maïn doit parler de la faiblesse même du budget alloué à la sécurité.
Tout ceci est vrai. Et tout ceci ne peut s'améliorer sans aucune synergie. Aucune synergie entre les gouvernements, les services du gouvernement central et ceux, du gouvernement provincial, et même avec les populations civiles locales. Vous comprenez, tout ceci ne peut s'améliorer que si nous nous engageons dans une synergie, les uns les autres. C'est important. Mais maintenant, est-ce qu'on peut dire ici, sans se gêner, que le gouvernement central n'a jamais rien fait pour le Kivu? Est-ce que c'est cela que l'on veut dire? Et cette déclaration intervient en ce moment pourquoi? à la veille des élections. Pourquoi? Parce qu'on veut plaire et séduire qui? Vous comprenez? C'est pour ça que j'insiste. J'ai dit, c'est une déclaration politicienne qui crée la diversion sur un terrain où l'on connaît les responsabilités des uns des autres.
Alors, avant que je ne donne la parole à l'honorable Kiro, il y a Séverin Kitchele de Bukavu qui dit « Je pense que le président de la République doit prendre ses responsabilités en tant que le commandant suprême et le garant de la nation et non le premier ministre qui n'a aucun mandat du peuple. » Pourquoi le président ne s'exprime pas, Franklin Tchamala?
Non, mais on est habitué dans ce pays à entendre le président s'exprimer à temps et à contre-temps. Eh bien, on attendra longtemps. On a vu le président physiquement fouler le sol du Grand Nord. Il restait pendant autant de jours
mais sans
pour
solution
faire le diagnostic de la situation. On l'a vu là-bas. On l'a entendu parler aux forces vives. On l'a entendu. Mais dites-moi, mais maintenant qu'il a entendu les uns les autres et qu'il a eu le temps de se faire une idée de ce qui s'y passe et qu'il a mis en route maintenant un certain nombre de stratégies qui sont en train de démontrer et de nous donner des résultats. Qu'est-ce que l'on voudrait? C'est vrai, on est habitué aux générations spontanées. On est habitué à voir une situation qui a perduré pendant des décennies, comme ça, s'est résorbée par un coup de baguette
magique. Merci, Franklin Tchamala. Merci, Franklin Tchamala. Honorable Kiro, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Mbujimayi au Kasaï Oriental.
Extra-Ziave de Mbujimayi, Kasaï Oriental. L'insécurité qui règne à Beni, Nord-Kivu, ne doit pas laisser les dirigeants congolais indifférents. C'est les nuages qui annoncent la pluie. Ils doivent communiquer avec les peuples, dire la vérité au peuple. Où sont passées les promesses électoralistes de 2011 promettant la population de l'Est la paix?
Honorable Kiro.
Je crois que cette interpellation ne peut pas s'adresser à moi, parce que je suis d'avis effectivement que la sécurité ne doit pas laisser indifférents les dirigeants. Où sont passées les promesses électorales de 2006 et de 2011 promettant la paix? Je me pose la question moi-même.
En tant que citoyen, quelle est votre réponse?
En tant que citoyen, ma réponse c'est quoi? Mais c'est que toute la solution se trouve au niveau de l'exécutif. Effectivement, il faudrait pas que nos dirigeants abandonnent la population de Nord Kivu.
Mais vous avez suivi Franklin Tchamala donner beaucoup de détails. Le président de la République était sur place. Vous-même, vous avez parlé des ministres qui ont fait des tours là-bas. Mais visiblement, il n'y a toujours pas de solution.
Le drame, c'est que, justement, j'ai dit tantôt que depuis plusieurs années, le chef de l'État, toutes sortes, disons, des ministres du gouvernement, des membres de l'Assemblée nationale, plusieurs commissions se sont rendues sur place. Tout le monde a entendu la population, tout le monde a promis des solutions, mais jusque-là, il n'y a aucune solution. C'est ça le drame. Parce qu'on peut nous parler. On peut nous parler de tous ces conseils de sécurité, de toutes ces structures-là qui sont censées se charger de la sécurité, mais le résultat est là. Les massacres n'ont jamais cessé. Et c'est ça qui énerve. C'est ça qui énerve. Quant à mon ami Franklin Tchamala, je suis au regret de lui dire que de répondre à certaines de ces questions. Quand il dit les armes du Kivu proviennent d'où? Les armes du Kivu proviennent des pays limitrophes, Rwanda, Ouganda, clair et net. Quant au coltan, il est acheté avec quel argent? Le coltan est trafiqué par ces deux pays-là, Rwanda, Ouganda, clair et net. En ce qui concerne les opérateurs économiques de Beni Boutembo qui prospèrent dans l'immobilier de façon assez extraordinaire, je dois dire que Je fais partie de l'ethnie Nandé, et l'ethnie Nandé, c'est une ethnie constituée de gens qui ne sont généralement pas pauvres. Donc, ce sont des gens qui sont dans les affaires. Ils sont dans les affaires depuis les années 60. Et le fait qu'on prospère dans l'immobilier aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date des années 60. Donc, il y a toute une explication à cela. Ça n'a rien à voir avec la guerre, ni avec le coltan, ni avec les égorgements.
Mais Franklin Tchamala dit, par rapport à cela, qu'il y a parmi les solutions, il y a les fils du Nord Kivu qui ne coopèrent pas aux efforts du gouvernement qui veut installer la paix dans cette province.
Écoutez, ça c'est ce qu'on appelle une fuite en avant. Le gouvernement, à travers son bras armé, les forces armées congolaises, a l'obligation constitutionnelle d'assurer la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Si d'aventure il y a quelqu'un ou un groupe d'individus qui ne coopère pas pour que la sécurité revienne. Mais le gouvernement n'a qu'à le neutraliser. Il est incapable de le neutraliser et il préfère se cacher derrière le fait qu'il y aurait des complicités. Est-ce que cela explique le fait qu'il soit incapable d'agir? Non.
Alors la solution viendrait d'où, honorable Kiro, parce qu'on ne l'attendra pas toujours du ciel?
la solution viendra de l'exécutif et seulement de l'exécutif. Moi, je demande ceci. Est-il impossible que les plus hautes autorités nationales en ce qui concerne les forces armées, par exemple le chef d'état-major, ou encore là, le chef des forces terrestres, est-il impossible qu'il se déporte de Kinshasa vers Beni et qu'il commande personnellement les opérations? Est-ce vraiment impossible? Est-il impossible de surmilitariser la région? Il y a déjà suffisamment de militaires là-bas, mais il faut encore en rajouter. Il faut en rajouter parce que manifestement il y a plein d'endroits où les militaires, malgré leur nombre important, ne savent pas agir. Donc il y a tout cela.
Merci. Professeur Mahindo, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Disons quand même depuis Lubumbashi au Katanga, ma profonde inquiétude est sur deux volets. 1. L'armée, les services de renseignement, la MONUSCO, constitue-t-il encore notre première ligne de défense à laquelle la population reste faire recours pour avoir une vie sauve? 2. Pourquoi le gouvernement ne doit pas changer hiérarchiquement les têtes de ces derniers après leurs échecs de la mission sécuritaire? Car son appel prouve leur insuffisance sur terrain dont le chantier sécuritaire doit être une priorité du gouvernement Mafata II, conjointement avec la MONUSCO pour mettre fin à cette entreprise criminelle qui afflige les pauvres Congolais du Nord Kivu.
Professeur Mahindo.
Oui, merci beaucoup. Bon, la connexion était un peu mauvaise. Je n'ai pas bien suivi la seconde partie, mais je crois que je vais répondre par rapport à ce que j'ai cru comprendre. Alors, pour ce qui est de... je pense qu'il n'y a rien de plus important que cette confiance entre l'armée, la police, les services de sécurité et la population. Aucune armée au monde, aucun service de sécurité ne peut réussir à sécuriser le pays s'il n'y a pas de confiance avec la population. Et c'est que Mao avait compris, hein. Mao, le révolutionnaire, il disait que si on veut réussir, les combattants, les militaires, on veut réussir à transformer un pays, doivent être comme un poisson dans l'eau avec la population. Et donc, pour ce qui concerne le Congo, je pense que nous devons faire des efforts les uns et les autres. Et considérer que les militaires, il est là pour sécuriser les gens, pour faire son travail. Et on doit aussi rappeler que les militaires n'est pas un homme comme les autres, n'est pas un fonctionnaire comme les autres. On doit donc faire en sorte que ces métiers-là puissent avoir des conditions de vie, des conditions de travail qui méritaient par rapport au sacrifice dont ces gens sont, auxquels ces gens sont appelés pour sécuriser nos gens. Et donc, notamment aussi les équiper, les entraîner et tout ça. Et c'est un travail qui s'est fait et qui doit se poursuivre pour être vraiment au niveau que l'on croit, que l'on voudrait avoir. Alors, pour ce qui concerne maintenant la partie de la collaboration, parce qu'il a évoqué aussi la collaboration avec la MONUSCO, oui, évidemment, il me semble que c'est un point important. On a vu le résultat que ça a pu donner lorsqu'il y a eu une véritable collaboration entre les forces armées de la RDC qui montent en puissance avec la MONUSCO. On a vu comment les M23 a été défait avec efficacité. On a vu aussi comment ça a pu commencer à donner d'autres résultats contre d'autres groupes armés. Maintenant, il faut que cette collaboration revienne et on verra les résultats qui vont provenir de là. Et aussi, la difficulté qu'on a sur le terrain du Nord Kivu, du Sud Kivu, et un peu aussi en Ituri, c'est la nature de l'ennemi et du conflit. On n'est pas ici dans des conflits classiques avec un ennemi avec des lignes de combat qui sont fixées. Non, l'ennemi, il est parmi vous. En fait, il est perdu. C'est une guerre asymétrique. Donc, on ne peut pas mener cette guerre-là. Voyez-vous, avec les moyens que l'on peut mener, comme on aurait deux armées professionnelles qui se battent entre elles. Donc ça, c'est une grosse difficulté qui fait que les forces de défense vont avoir des problèmes. Alors, mais ceci dit, il me semble qu'il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités pour décourager les gens qui prennent les armes. Il faut qu'on arrête un peu ce processus qu'on a là de mobilisation, démobilisation, rémobilisation des miliciens. Puisque notre constitution, en son article 190, considère comme un crime de haute trahison toute appartenance à une milice, à un groupe armé, à un groupe paramilitaire. Alors, les gens qui font ce type de travail, il faut les prendre et les poursuivre en tant que tels. Mais quand on fait à chaque fois des amnisties et tout ça, ben, on encourage à l'impunité et ça ne cessera pas.
Merci, professeur. Et donc, la justice doit faire son travail. Franklin Tshamala, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. La solution ne passerait-elle pas, Franklin Tshamala, par la conjonction des forces entre la MONUSCO et les FARDC, cette collaboration, cette coopération qui doit reprendre comme l'ont souhaité beaucoup de personnalités, notamment Martin Kobler, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon lui-même, le professeur Maïndo vient également d'en parler.
Non, j'apprécie beaucoup l'approche du professeur Maïndo qui estime qu'on n'est pas dans une guerre classique. Et même quand on serait dans une guerre classique, il n'y a aucun prince qui peut gagner la guerre avec les armes étrangères, avec des mercenaires. C'est impossible, excusez-moi. Je suis ferme ce soir. Bon, alors maintenant, tous les princes du monde gagnent leur guerre avec les concours de ses sujets et avec ses propres ressources. C'est ça. Tant qu'il n'y aura pas une synergie entre nos forces de sécurité et nos forces armées avec la population locale, ce sera difficile. Je vous ai dit ici que les intermédiaires qui trafiquent entre notre pays et les pays limitrophes sont les enfants de la région qui amènent les capitaux pour acheter les mines et qui rentrent pour les fournir ailleurs, qui ramènent les armes pour entretenir ces circuits-là et qui perpétuent l'insécurité pour les besoins de la cause. Ça, c'est connu.
Mais pourquoi la justice ne fait-elle pas son travail, Franklin Tshamala, si ces gens sont connus, comme vous le dites?
Pardon, vous dites?
Pourquoi la justice ne fait pas son travail, comme a dit le professeur Maïn?
La justice doit être saisie. La justice se trouve là dans une forme de guerre où les populations civiles et ceux qui perpétuent l'insécurité sont compénétrés, on ne peut pas savoir qui fait quoi. C'est difficile, c'est une guerre d'une autre nature à laquelle on assiste dans cette province-là. Voici pourquoi je persiste et je dis que tant que les barzas communautaires ne sont pas pour que les communautés se redonnent confiance les unes aux autres, tant que l'on ne comprendra pas que la collectivité passe avant l'intérêt partisan, l'intérêt privé, nous sommes partis pour l'enlisement.
Alors en guise de conclusion, Franklin Tshamala, peut-on espérer une solution d'ici là?
Mais j'espère, j'ai dit que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître.
Merci. Honorable Kiro, le professeur Maïn doit parler de la conjonction, de la collaboration entre les FARDC et la MONUSCO qui doit absolument reprendre parmi les solutions.
Oui, je crois que la trêve qui a été observée pendant, je crois, deux mois et demi à Beni, cette trêve-là correspond à la période où les FARDC ont mené des opérations conjointes avec la MONUSCO. Or, maintenant...
Et donc, il faut absolument
reprendre. Oh oui, il faut absolument reprendre, parce qu'écoutez, nous ne devons pas nous voiler la face, quels que soient les efforts qui sont faits par le gouvernement pour mettre sur pied une armée professionnelle. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Donc, la MONUSCO est la seule qui dispose d'une logistique capable de vraiment nous aider. Mais entre-temps, je crois qu'il y a aussi le problème des FARDC. Il faut mettre de l'ordre dans les FARDC. Il y a trop de brebis galeuses qui collaborent avec l'ennemi au sein de nos propres forces armées. Je crois que moi, en ce qui me concerne, je crois que la solution première passe par là. Maintenant, la synergie peuple-service de sécurité, mais elle a toujours existé. Et là, vraiment, je me mets du côté du peuple. Et je crois que le peuple a vraiment raison de se sentir abandonné, délaissé. Parce que malgré sa collaboration avec les services d'enseignement, il y a toujours des gens parmi les autorités qui affirment que le véritable problème, c'est la population qui collabore avec les assaillants.
Et il faudrait également que la justice fasse son travail en mettant hors d'état de nuire toutes ces personnes qui détiennent des armes.
Mais les personnes, écoutez, c'est une question d'État. L'État doit être présent. S'il y a quelqu'un qui a des armes, mais on n'a qu'à l'arrêter. Plutôt que de crier sur tous les toits, il y a des armes. Non, il faut les arrêter.
Merci, honorable Kiro. Professeur Maïndo, conclusion.
Bien, en guise de conclusion, moi, ce que je pourrais dire, c'est tout simplement rappeler que la sécurité intérieure ainsi que la défense de notre territoire, c'est de la responsabilité de tous et de chacun. Mais en premier lieu, d'abord, c'est le travail des gouvernants. Et quand je dis gouvernant, il s'agit pas seulement du gouvernement central, hein, il s'agit aussi du gouvernement provincial qui doit collaborer, qui doit aussi mobiliser, qui a aussi des fonds qui peuvent être alloués pour accompagner, disons, appuyer le gouvernement central à mener des actions pour ça. Et en dernier lieu, ce que je voudrais dire en guise de conclusion, il faut que nous puissions vraiment considérer notre armée comme un véritable outil de défense nationale en essayant d'entraîner les hommes correctement, en améliorant leurs conditions de vie et de travail.
Merci professeur, c'est par vous que nous terminons cette émission. Merci monsieur d'y avoir participé. Vous pouvez retrouver cette émission sur radiocapi.net ou la réécouter en rediffusion à 5h15, heure de Béni, au Nord Kivu. Au revoir.